80s and 90s.
L'oreille mathématique, le podcast de l'Institut Henri Poincaré. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'oreille mathématique. Nous recevons aujourd'hui un chercheur en mathématiques qui s'est orienté vers la géométrie, notamment parce qu'il aime illustrer les mathématiques, représenter visuellement les théories et les données qu'il manie. Alternant entre travaux de recherche et médiation scientifique, il travaille par exemple avec des élèves ébénistes pour créer des objets esthétiques à partir de formes ou d'idées mathématiques. Bonjour Rémi Coulon.
Bonjour.
Rémi Coulon, vous êtes chercheur au CNRS, rattaché à l'Institut de recherche mathématique de Rennes. Vos travaux de recherche portent, entre autres, sur la théorie géométrique des groupes et les systèmes dynamiques. Parallèlement, vous menez divers projets de médiation scientifique qui visent à sensibiliser et éveiller le public aux mathématiques. Est-ce que vous vous souvenez, vous, de ce qui vous a fait aimer la géométrie ?
Bon, ça remonte à loin. Déjà, je viens d'une famille où on était quand même assez scientifique. Mon père était prof d'informatique et ma mère est prof de maths. Donc j'ai des souvenirs notamment à table où ma mère arrivait. J'ai un problème de maths, je sais le résoudre, mais je veux une solution où on n'utilise que les outils connus par des secondes, des premières. Et donc mes parents commençaient à discuter et souvent, on avait besoin d'un cercle dans la figure, donc l'assiette faisait le cercle, le couteau faisait la droite, et puis à un moment, c'était pas suffisant, on poussait les assiettes, on sortait une feuille de papier, on commençait à discuter. Et moi, j'étais tout petit, je comprenais rien, mais je pense que clairement, ça m'a marqué, et j'ai toujours ce souvenir en tête, et ça a forcément joué dans mon choix de thématique.
Vous dites que plus généralement, vous êtes quelqu'un d'assez visuel, que quand même, souvent, quand on aime la géométrie, on a comme ça une espèce de pensée, une manière d'appréhender les choses visuelles.
Je m'en suis rendu compte quand assez tard, c'est qu'il y a différentes manières de faire des mathématiques, et souvent, d'avoir le support d'une image ou d'une représentation, même s'il est un peu abstraite, ça m'aide à me guider, à avoir une certaine intuition, même si ce n'est pas forcément l'intuition qu'on peut imaginer, parce que je vis, je travaille dans des mondes un peu bizarres, mais on se forge une intuition à partir d'images, et ça aide beaucoup pour mon travail.
Est-ce que vous avez toujours voulu faire un métier en lien avec les mathématiques, ou au départ vous étiez parti vers complètement autre chose ?
Alors initialement non, pendant très longtemps je voulais faire de la musique, j'aurais bien aimé être musicien, mais voilà, ça s'est fait autrement.
Quel instrument est-ce que vous jouez ?
Je joue de la clarinette. J'ai fait aussi un peu de violon et de chant, mais ça, je l'ai laissé de côté parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Et puis, très tôt, je pense que j'avais un attrait pour la recherche. Donc ça, c'était assez clair dans ma tête. Mais j'étais plutôt en me disant, je vais faire quelque chose de l'ordre de l'acoustique, justement, pour mêler un peu musique et science. Et puis, à un moment dans mon parcours, quand il a vraiment fallu décider quelle discipline je voulais pousser, bah, je me suis rendu compte que finalement, les maths, ça m'éclatait. Et c'était la seule matière dans laquelle il n'y avait aucun moment où j'avais l'impression de m'ennuyer, parce qu'il y a toujours des choses rébarbatives. Et en maths, je m'amusais toujours. Donc je dis banco, c'est parti pour les maths.
Vous avez grandi à Nancy, vous avez toujours été un très bon élève depuis tout petit, et on va parler de votre parcours après scolaire et étudiant, hein, mais est-ce qu'il a été comme ça linéaire, ou est-ce que, vous n'étiez pas forcément un bon élève, mais qu'il y a eu une révélation à un moment ?
Je pense que j'étais un peu la caricature d'Agnan dans le petit Nicolas, pas une époque. Donc ça s'est bien passé pour moi. Après, moi, je me posais pas trop de questions, mais ça s'est bien passé.
Vous avez fait l'école polytechnique, c'est-à-dire une école d'ingénieurs. Vous n'êtes pas passé par le parcours, disons, on pourrait dire classique, hein, pour les chercheurs en mathématiques, qui est l'école normale supérieure. Qu'est-ce qui vous a guidé dans ce parcours et qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi et puis intégré l'école polytechnique après les classes préparatoires à Nancy ?
Ben, y a un petit phénomène de... Le système français est fait à mon époque, où on pouvait un peu se laisser porter et ne pas faire de choix très tôt. Et donc, au lycée, j'ai fait un parcours scientifique. J'étais possible de faire des classes préparatoires, donc j'ai fait des classes préparatoires sans me disant je pars pour les sciences, mais sans me décider. Puis après, on passe des concours, on voit ce qu'on a. Bon, il se trouve que j'avais Polytechnique, j'avais pas normal, ça arrive. Et Polytechnique me laissait encore toutes les portes ouvertes, donc on continue. Puis c'est seulement finalement très tard que j'ai décidé de me lancer sur les maths.
Qu'est-ce que vous a apporté l'école polytechnique ?
Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir reçu des cours de haute tenue dans plein de domaines scientifiques, de la mécanique, de l'informatique, de la biologie, de la chimie. Et j'ai l'impression que ça m'a donné une certaine culture d'honnête homme scientifique, et que j'apprécie beaucoup en tant que citoyen, mais aussi parce que dans notre manière de faire des mathématiques, souvent on a des interactions où on a des problèmes qui viennent d'autres disciplines, et d'avoir une petite touche, une petite culture scientifique sur d'autres disciplines, je trouve que c'est très enrichissant.
Qu'est-ce que c'est cet honnête homme scientifique, ce concept d'honnête homme scientifique? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un peu?
Bonne question. L'idée étant, pour moi, d'avoir justement un certain bagage dans différentes disciplines pour être en mesure d'analyser un peu les premières données qu'on peut recevoir via les médias, via tout un tas de... On est environné dans un monde scientifique, en fait. On nous sort régulièrement des statistiques sur tout et n'importe quoi. Donc d'avoir un minimum de recul pour digérer cette information qu'on nous envoie, je trouve que c'est important.
Parce que moi, ce que j'entends quand vous parlez comme ça d'honnête homme scientifique, j'entends aussi derrière la notion d'éthique, une notion d'éthique.
Ah, je pensais plus, moi, honnête homme, l'honnête homme de lettres du XVIIIe siècle.
D'accord.
Qui connaît un peu, justement, un vaste panel de la culture.
Et qui a une approche raisonnée
voilà.
Du monde. D'accord. vous dites quand même que l'École Polytechnique vous est donnée comme ça un accès à différentes disciplines scientifiques pour pouvoir aussi analyser sous différents prismes le monde et les données auxquelles vous êtes confrontés. Mais qu'en même temps, en préparant cette émission, vous m'aviez dit que vous aviez, comme ça, au moment où vous avez choisi la géométrie finalement, à la fin de votre cursus, l'impression d'être pas complètement mathématicien non plus, d'avoir pas été spécialisé très tôt et de pas être un pur mathématicien.
Effectivement, c'est clair que par rapport à d'autres formations plus orientées vers les mathématiques, tout le temps que j'ai passé dans d'autres cours, d'autres sciences, c'est du temps que je n'ai pas passé à faire des maths. Et quand j'ai commencé ma thèse, le domaine dans lequel je me suis lancé, il y a l'avantage qu'on peut s'y lancer avec assez peu d'outils. Mais par contre, très vite, on a besoin d'une grande culture pour avoir des exemples d'objets sous la main pour tester nos idées. Et là, j'ai vraiment senti que j'avais des gros trous.
Votre thèse, on peut le dire, hein, vous l'avez faite à Strasbourg et elle portait sur les groupes symboliques, c'est bien ça?
Sur les groupes de Burnside. Et oui, par exemple, j'ai pas passé le concours de l'agrégation en mathématiques, et qui est un concours pour lequel, pendant une année, en fait, on prépare et on a... des leçons de cours, et on a un vaste aperçu de plein de choses en mathématiques. Et je sais très bien que j'ai encore des trous dans ma culture mathématique que j'essaie de combler au fur et à mesure, mais ça reste. Après, on ne peut pas tout avoir.
On va parler tout à l'heure des moyens que vous avez trouvés, de la créativité dont vous faites preuve pour justement combler ces lacunes que vous pensez avoir, en tout cas. Mais pour l'instant, Rémi Coulon, on va parler du trimestre thématique à l'Institut Henri Poincaré auquel vous avez participé il y a quelques mois pour présenter vos travaux en géométrie non euclidienne. Mais d'abord, qu'est-ce que la géométrie non euclidienne? C'est à cette question qu'a choisi de s'intéresser Adrien Rossi pour sa chronique Médiation scientifique. Bonjour Adrien.
Bonjour Hélène. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Rémi Coulon, vous avez donné le 25 mai 2022 à l'Institut Henri Poincaré une conférence pour des élèves de lycée intitulée « Comment faire de la géométrie sur une selle de cheval ». Cette conférence avait notamment pour objectif de rendre accessible une notion surprenante que je suppose certains de nos auditeurs et auditrices ont déjà entendue sans forcément savoir à quoi cela fait référence, il s'agit des géométries non euclidiennes. Je vais dans ma chronique d'aujourd'hui expliquer ce que c'est, avant de vous proposer, Rémi Coulon, d'aller un peu plus loin ensuite autour de ce sujet. Avant de présenter ce qu'est une géométrie non euclidienne, revenons déjà sur ce qu'est une géométrie euclidienne. Euclide, mathématicien de la Grèce antique, est l'auteur des Éléments, un ouvrage qui constitue une sorte de compilation de tout le savoir mathématique de son époque. La géométrie euclidienne qui y est présentée se fonde alors sur 5 axiomes, c'est-à-dire 5 principes de base, non démontrés mais que l'on admet comme vrais pour pouvoir, à partir de ces 5 principes de base, construire d'autres raisonnements mathématiques. Ces 5 axiomes de la géométrie euclidienne sont, pour le premier, un segment de droite peut être tracé en joignant deux points quelconques distincts. Le second, un segment de droite peut être infiniment prolongé en une droite. Le troisième, étant donné un segment de droite quelconque, on peut tracer un cercle ayant le segment comme rayon et l'une de ses extrémités comme centre. Alors ces trois premiers axiomes sont les bases de la géométrie telle que nous l'apprenons toutes et toutes à l'école primaire puis au collège. Le quatrième axiome, lui, énonce que tous les angles droits sont congruents, ce qui est un peu plus compliqué à expliquer, mais en gros signifie que tous les angles droits ont la même forme, quelle que soit leur position dans l'espace. C'est le cinquième axiome d'Euclide qui est le plus important pour la suite de mon explication. Ce principe précise que si on prend une droite et un point hors de cette droite, il existe une et même une seule droite passant par le point qui soit parallèle à l'autre droite. Cet axiome se vérifie toujours sur un plan. Et c'est pour cela que dans les mathématiques à l'école, sur nos feuilles de papier, nous apprenons la géométrie euclidienne. Toutefois, rien n'empêche les mathématiciennes et les mathématiciens de faire de la géométrie sur d'autres surfaces, par exemple au hasard une selle de cheval. Mais avant d'y venir, passons par un autre exemple plus simple, une sphère. Sur une sphère, on utilise la géométrie sphérique, qui est une géométrie non euclidienne. Elle peut paraître surprenante au premier abord, mais c'est pourtant une géométrie que l'on utilise beaucoup dans notre vie quotidienne, par exemple en géographie. Imaginez un globe terrestre et tracez-y un triangle reliant le pôle Nord, le Venezuela et le centre de l'Afrique. Vous pouvez tester si vous avez un globe chez vous et mesurer chacun des trois angles de ce triangle. Vous serez sûrement surpris ou surprise de mesurer que ce triangle a trois angles droits. Sur un plan, dans la géométrie euclidienne, un triangle ne peut avoir qu'un angle droit au maximum, et la somme des trois angles d'un triangle doit faire 180 degrés. Avec trois angles droits, ce triangle sur une sphère semble contredire tout ce qu'on a appris depuis le collège, car la somme de ces angles fait donc 3 fois 90 degrés, c'est-à-dire 270 degrés. La sphère ayant une courbure, la somme des angles d'un triangle y fait plus de 180 degrés, et c'est caractéristique de la géométrie sphérique. Un second exemple surprenant, c'est d'imaginer sur cette sphère un trajet en avion, entre Paris et San Francisco. Si on regarde la Terre sur un planisphère et qu'on cherche le plus court chemin, on aurait tendance à penser que celui-ci est une ligne droite qui passe au-dessus de New York. Pourtant, si on se met sur un globe, et que là aussi on peut faire l'expérience si on a un globe chez soi, et que l'on tend un fil entre les deux villes, Paris et San Francisco, on constate que ce fil passe au-dessus du Groenland. Ce chemin s'appelle la géodésique. Et sur une sphère, c'est sur une géodésique que repose le plus court chemin, et c'est celui qui sera effectivement pris par les avions qui relient ces deux villes. Pour finir, revenons à la selle de cheval. Sur cet objet, il est possible de faire passer par un point plusieurs droites différentes qui sont parallèles à la même droite. Et cela va à l'encontre du cinquième axiome d'Euclide. Sur une selle de cheval, aussi, on utilise une géométrie non euclidienne, en l'occurrence, ici, c'est la géométrie hyperbolique. Attention, cela ne signifie pas du tout que la géométrie euclidienne est fausse, cela veut juste dire qu'il existe plusieurs manières de faire de la géométrie, et que suivant la situation que l'on étudie, on utilise telle ou telle géométrie. Rémi Coulon. Dans le cadre de conférences ou sur Internet, vous montrez de nombreuses vidéos qui permettent de s'immerger en 3D dans différentes géométries. Qu'est-ce que vous souhaitez montrer grâce à ces vidéos ?
Le premier objectif, je pense que c'est d'abord une curiosité de mathématicien. À savoir, vous avez très bien présenté les trois types de géométrie qu'on a sur des surfaces, donc des objets plutôt à deux dimensions. Mais le même phénomène existe aussi quand on est dans un espace en trois dimensions. Donc on a un espace à trois dimensions euclidien comme celui qu'on a l'habitude de manipuler à l'école, entre guillemets, qui peut faire des cauchemars. Les exercices de géométrie dans l'espace, c'est toujours un peu délicat. Mais il y a d'autres géométries en dimension 3. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on verrait si on vivait dans un de ces mondes-là ? L'idée étant que la lumière va justement choisir ses plus courts chemins dont vous avez parlé, les géodésiques. Et comme ce ne sont pas des lignes droites, elles ont tendance à avoir des formes parfois extrêmement surprenantes, ça va affecter notre perception de l'espace environnant. Et donc du coup, ce n'est pas totalement évident, juste abstraitement, de s'imaginer ce qu'on verrait si on vivait dans un de ces mondes. Et donc la première motivation pour ce travail, c'était juste ça, de dire on va mettre des objets dans une géométrie non euclidienne, la géométrie hyperbolique, la géométrie sphérique ou d'autres avec des noms plus exotiques, Nil, Sol, etc. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est assez surprenant, des fois c'est un peu barré, soyons honnêtes. Et après, c'est un... Derrière, pour moi, il y a deux autres objectifs, enfin trois si je veux. Le premier, c'est d'explorer ces mondes et de mettre un peu à épreuve nos intuitions. Est-ce que ce qu'on imagine est correct ou non ? Est-ce qu'on découvre des phénomènes qu'on n'avait pas anticipés ? Ça, c'est un premier objectif pour moi. Le deuxième, en tant que mathématicien, c'est développer ce genre d'outils, en fait, c'est, essentiellement, ça passe par un travail informatique. Et la machine, bah, elle est bête. Elle fait ce qu'on lui demande, rien d'autre. Donc, pour pouvoir développer un logiciel qui va faire ces simulations, on est obligé de creuser complètement à fond tous les concepts mathématiques. Et il n'y a pas place au moindre flou d'interprétation. On est obligé d'écrire rigoureusement tous les objets. Et donc, c'est une bonne manière, en fait, de tester si on comprend complètement les objets qu'on manipule. Et notamment, en fait, on arrive avec des questions un peu différentes de l'ordre algorithmique, de l'efficacité des calculs, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder quand on fait des études plus abstraites sur ces géométries. Et donc, ça donne un nouvel éclairage sur ce monde des géométries non euclidiennes. Et puis, la cerise sur le gâteau, si je peux dire, c'est à la fin, on a quand même réussi à avoir des images qui, visuellement, on en est assez content, et qui, j'espère, peuvent interpeller le grand public aussi, qui serait intrigué au vu de ces images-là, et les amener de cette manière à réfléchir sur ce que c'est que la géométrie.
Et d'ailleurs, donc certaines de ces vidéos, voire même toutes, sont disponibles en ligne. Est-ce que vous pouvez dire, pour nos auditrices et auditeurs, quel est le nom du site web sur lequel on peut les voir ?
Alors, le nom en anglais, c'est threedimensional.space, et l'adresse, c'est https://www.3-dimensional.space.
Merci, on mettra aussi le lien dans les ressources pour aller plus loin sur la page web de l'émission.
Et non seulement il y a des vidéos, mais en plus il y a des simulations qui tournent en temps réel. Donc si vous avez un bon ordinateur, vous pouvez naviguer à votre guise dans ces géométries non euclidiennes.
Et je crois que vous avez même fait une version en réalité virtuelle, il me semble.
Effectivement, donc si en plus vous avez un casque de réalité virtuelle à la maison et une bonne carte graphique, parce que quand même c'est un peu gourmand en calcul, il est possible de se balader avec un casque comme si on était vraiment plongé dans ces géométries.
Rémi Coulon, au niveau de vos projets actuels, il me semble que vous avez organisé il y a quelques semaines à Rennes une espèce de hackathon ou séance de création en groupe avec des collègues, chercheuses, chercheurs, mais aussi des vulgarisateurs, vulgarisatrices des sciences. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Effectivement, on a baptisé ça un fabricathon, en référence au hackathon. L'idée, c'est qu'on se bloque 3 jours dans un Fab Lab, en l'occurrence ici c'est le Teaching Lab de l'Université de Rennes. C'est un lieu avec plein de machines, découpeuses laser, imprimantes 3D, perceuses, ponceuses, etc. Et pendant 3 jours, on s'est donné pour objectif de réaliser des objets qui vont pouvoir servir à la médiation scientifique. Donc il y avait des chercheurs, des enseignants de secondaire, des gens qui sont plus penchés vers la médiation, la diffusion des sens. Et donc, c'était 3 jours assez joyeux où on a bricolé, scié, poncé, découpé, pour faire des... Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans les objets ? Des chambres de réflexion pour représenter des groupes finis dans l'espace, des billards, des trajectoires de la lumière qui se reflètent sur des bords miroirs, des surfaces un peu bizarres de tore de genre 2, un plan hyperbolique en patchwork, notamment. Tout un tas de choses qui, j'espère, après, vont pouvoir être partagées. Parce que l'idée, c'est qu'on les mette à disposition de la communauté en France pour la médiation scientifique et donner d'autres idées à des gens qui cherchent à construire des activités de médiation. Et si je peux me permettre, d'ailleurs, il y a un site pour ça qui s'appelle KitMath, donc kit.math.cnrs.fr.
Rémi Coulon, vous l'avez bien expliqué, vous avez expliqué la manière dont finalement ces projets de médiation scientifique et de sensibilisation tournés vers le public nourrissent vraiment votre activité de chercheur. Et je me demandais, en préparant cette émission, vous m'aviez dit que la question que vous redoutiez quand vous meniez des conférences tournées vers le public, c'était à quoi ça sert ? Parce que cette question, elle peut avoir tendance après à plomber la conférence parce que les recherches que vous menez n'ont pas toujours d'application directe ou de répercussions directes sur la vie, la société en fait. Mais par contre, que la question que vous essayez de susciter, de faire jaillir, c'est à quoi ça ressemble ou comment représenter ce dont on parle ? Parce que là, justement, ça peut, vous pouvez montrer des modélisations, des illustrations qui sont impressionnantes et assez spectaculaires, on peut le dire, hein, pour certaines.
Effectivement, je pense que, en tout cas, à mon expérience, une des difficultés quand on fait de la médiation, c'est que j'imagine qu'il y a un certain décalage entre le chercheur passionné qui a envie de faire partager sa passion, la beauté qu'il trouve dans sa discipline, et le public qui cherche peut-être probablement à faire le lien entre ce qu'on lui explique et le monde qui l'entoure, et d'où la question assez naturelle finalement, quelles sont les applications, où est-ce que je peux retrouver ce que vous m'expliquez. Et du coup, j'imagine qu'il y a un certain décalage, et pour moi c'est difficile des fois de remplir de passer ce pont. Et j'ai l'impression qu'en produisant des objets ou des vidéos, ou des images, ou quoi que ce soit, qui ont, j'espère, une certaine qualité esthétique, ça peut décaler un peu le centre de gravité de la discussion. Et on part de l'émerveillement que peut susciter justement l'objet. Et on se déconnecte un peu de la réalité pour commencer à parler de science avec un angle d'attaque qui est différent.
Voilà, parce que c'est vrai qu'on a toujours une tendance à vouloir avoir une espèce de vision utilitaire des sciences, et notamment des mathématiques. Et vous, j'ai l'impression que dans les travaux que vous menez, et même dans votre approche de chercheur, vous cherchez à emmener les mathématiques presque du côté des arts, et de la, vraiment de la création artistique, en fait. Et voilà, je voudrais que vous me parliez, par exemple, de ce que, du travail que vous menez avec des élèves ébénistes actuellement.
Alors cette année, j'ai été contacté avec des élèves du lycée professionnel du Guesclin à Auray, qui ont une section d'ébénisterie, et leur prof de maths m'a dit « j'aimerais bien qu'on arrive à faire un projet justement où on va réaliser un objet, des objets en bois, avec un lien vers les mathématiques ». Et donc on a décidé de travailler sur ce qu'on appelle des structures de verre fêlant, qui sont des problèmes de surface minimale dans des mousses de savon. Et ce qui est assez joli, c'est qu'en fait c'est un problème, on a un... C'est un problème d'optimisation, on cherche à minimiser une surface pour un volume donné. On a des candidats pour la solution, mais on ne sait pas si c'est la bonne solution. Donc le problème est encore ouvert. Et donc ces élèves, ils vont réaliser une sculpture en bois. On va aussi inclure des éléments en verre faits par les verriers de l'université, qui illustrent un peu les différentes tentatives de solutions qui ont été apportées à ce problème. Et qu'on compte soumettre dans une, pour une exposition qui lie les mathématiques et les arts. Et puis j'espère après que cette œuvre pourra aussi tourner dans d'autres lieux de sciences et d'art, comme à nouveau comme point d'accroche pour parler de mathématiques.
Je reviens à votre activité de chercheur. Est-ce que vous pensez être plutôt un chercheur qui a une approche sociale de la recherche ou plutôt solitaire ?
Clairement sociale. Ça fait partie, je pense, des clichés qu'on a du mathématicien un peu dans sa caverne, déconnecté du monde. Mais je suis profondément convaincu que les mathématiques, c'est une activité sociale. Beaucoup de mes collaborations, en fait, elles ont commencé en buvant une bière un soir après des exposés dans une conférence. On discute un peu un bâton rompu et on se rend compte qu'avec un collègue, on peut avoir des centres d'intérêt communs, ou alors j'ai un bout de la solution et l'autre en fait à l'autre bout et on peut se mettre ensemble. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se font au hasard des rencontres. C'est-à-dire, il y a des idées sans doute qui flottent un peu dans l'air parce qu'on est autour, on tourne autour et en tant que communauté, on n'est pas loin justement de résoudre ces problèmes-là. Et puis après, comment ça se cristallise, comment ça prend forme? Ouais, je suis persuadé que c'est beaucoup d'interactions sociales.
Est-ce que vous pensez aux mathématiques continuellement, c'est-à-dire est-ce que les mathématiques sont présents dans votre esprit 24 heures sur 24, ou est-ce que voilà, il y a un temps pour tout quoi.
Je pense qu'il y a des périodes en fonction aussi des autres tâches que j'ai à faire, parce que bon, on tente un petit peu d'enseignement ou alors des tâches administratives, et donc ça aussi ça nous occupe pas mal. Mais sinon c'est vrai, quand je suis dans l'ensemble d'un projet de recherche, là ça peut devenir obsédant. Ce qui n'est pas forcément toujours très agréable pour l'entourage, mais c'est ce qui aussi procure la satisfaction quand il y a quelque chose qui se débloque, c'est qu'on a tellement mariné dessus que le moment où il y a quelque chose qui se passe, il y a un petit côté illumination qui est assez agréable. Après, je pense qu'on a aussi, sans être complètement, plonger dans cet aspect, je suis en train uniquement de penser à mes maths, à mon sujet de recherche, et là je suis en boule, en train de mariner, de cogiter. Ça, je pense que c'est un peu exagéré. Mais on a, j'imagine, une certaine sensibilité dans la vie de tous les jours, quand on se promène dans la rue, quand on voit des choses, de faire des liens avec des choses mathématiques. Mmh. Et même dans le langage qu'on utilise, on a parlé de géodésique dans la chronique d'Adrien, très souvent un géomètre, il va dire, là je vais aller à tel endroit, je vais aller à la gare Montparnasse, ah oui, mais t'as pas pris le chemin géodésique. Mmh. T'as entendu, t'as pas pris le plus court chemin. Bah, forcément, c'est comme ça qu'on va s'exprimer.
Ça travaille toujours en arrière-plan, voilà. Quand même. Hein. C'est une tâche de fond, quoi.
Il y a un peu de ça, sans doute.
Quel objectif est-ce que vous aimeriez atteindre prochainement dans votre travail de chercheur, et peut-être dans une manière comme ça d'allier votre travail de chercheur et votre travail, les projets que vous menez en médiation scientifique, Rémi Coulon?
Alors, sur cet alliage en fait, entre médiation et recherche, il y a quelque chose qui me frustre encore un peu. C'est que j'ai mes activités de recherche en géométrie des groupes notamment, où les objets que j'ai l'habitude de manipuler, les concepts que j'ai l'habitude de manipuler, je n'ai pas encore trouvé de bonne manière justement de les illustrer, de les représenter. Et si j'y arrivais, ça serait vraiment une... j'en serais très content. Parce que, toujours dans l'aspect médiation, en fait, il y a des sujets bien définis sur lesquels je pense qu'on est globalement assez bien rodé et on sait les présenter et amener le public assez loin. Et puis les sujets sur lesquels on travaille personnellement, bah des fois on n'arrive pas justement à faire tout ce cheminement-là. Et donc finalement, au lieu de parler de sa recherche, on parle des trucs des copains, ce qui est très bien, c'est très chouette. Mais si j'arrivais en plus à amener le public sur mes domaines de recherche, je serais très content.
Vous m'avez dit que votre préoccupation actuelle, par exemple, ce sont les groupes pathologiques qu'on appelle les monstres en géométrie, et que c'était difficile justement d'illustrer en fait ces notions-là, ces concepts-là.
Effectivement, donc dans mon domaine de recherche, je travaille sur des groupes. En gros, c'est un concept qui permet de capturer les symétries d'un objet. Et à ce titre, en fait, ça apparaît dans toutes les branches de mathématiques presque, et aussi dans d'autres sciences. Et il y en a tout un tas bien classiques, entre guillemets bien gentils, qu'on comprend bien. Et puis il y en a qui ont des propriétés exotiques. Et c'est un peu cela qui m'amuse. Alors je ne connais pas tous les trucs aux propriétés exotiques, mais j'en ai quelques-uns dans ma sacoche. Mais du coup, comme ils sont un peu pathologiques, ils ne rentrent pas dans les cases auxquelles on a l'habitude de se référer pour y penser. Les représenter, en faire des images, c'est quelque chose qui est un peu compliqué, d'autant plus que ça fait intervenir des jeux de données qui sont énormes. Et donc, pour le moment, j'ai pas de représentation. J'ai un peu, des fois, l'impression d'être, vous savez, comme Hagrid dans Harry Potter, qui s'émerveille devant la bestiole la plus monstrueuse et qui s'en occupe comme un petit chaton. C'est un peu moi vis-à-vis de ce genre de groupe.
Vous reviendrez nous en parler, j'espère, quand vous aurez trouvé la solution pour les illustrer, Rémy Coulon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité pour cet épisode de L'Oreille Mathématique, un podcast de l'Institut Henri Poincaré, produit par Hélène Delis, avec Adrien Rossi pour la chronique médiation scientifique et la programmation du podcast. Comme toujours, j'encourage nos auditrices et nos auditeurs à consulter la page internet de l'émission et plus largement le site web de l'Institut Poincaré. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.